Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphie tous les samedis après VibraSOS. Entre 12h et 13h, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien sûr, avec la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h. Biotine vous permet de vous tenir informé de l'actualité scientifique. On parle un petit peu de tous les sujets, toutes les semaines, depuis plusieurs années maintenant, dans cette émission. Et on voit qu'il y a toujours des thèmes un peu récurrents. Et parmi tous les thèmes qu'on aborde très souvent dans cette émission, il y a souvent l'espace. Et on reviendra sur cette annonce de la NASA il y a quelques jours. C'était fin octobre, je crois. On n'a pas eu le temps d'écouter, de revenir sur cette annonce de la NASA avant les émissions qui ont déjà été diffusées sur l'antenne de Graphite. Mais donc, on va revenir sur cette annonce de la NASA aujourd'hui. 12 novembre, l'Organisation mondiale de la santé propose aujourd'hui comme étant la journée mondiale de la pneumonie. Donc on est là dans une action de sensibilisation. Et donc du coup, l'OMS va pouvoir aujourd'hui apporter des informations sur l'état d'évolution de cette maladie, les causes, les conséquences, mais aussi peut-être les recherches thérapeutiques qui sont engagées. 12 novembre 1937, c'est l'inauguration de l'aéroport international français du Bourget en 1937. Et en 2014, c'était l'atterrissage du module Philae de la sonde spatiale européenne Rosetta. C'était sur une comète après 10 ans de vol. On s'en souvient, on en avait parlé dans cette émission. C'était donc le 12 novembre 2014. C'était quand même assez fascinant d'avoir envoyé ce petit module Philae des années et des années dans l'espace et il s'est posé sur une comète. C'était vraiment intéressant. On avait suivi toute l'histoire de Philae, bien sûr. Et en fait, ça me surprend que ça soit 2014. Ça fait déjà 8 ans. Je sais pas, je trouvais que c'était plus récent, mais non, apparemment 2014. Et donc l'atterrissage précisément le 12 novembre. Naissance le 12 novembre 1746 de Jacques-Alexandre César Charles. C'est un physicien, un chimiste, un inventeur français. En fait, il est le premier à faire voler un ballon à gaz gonflé à l'hydrogène. Nous sommes au 18e siècle, au tout début du 18e siècle. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ce fameux Jacques Charles, son nom n'est pas nécessairement passé à postérité. Et c'est toujours intéressant, au moment de cette éphéméride, d'évoquer un petit peu le nom de ces grands scientifiques qui ont vraiment inventé pas mal de choses. Décès le 12 novembre 1793, nous sommes toujours dans le 18e siècle, le décès de Jean-Sylvain Bailly, mathématicien, astronome, écrivain et homme politique français. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'à l'époque, il touchait un petit peu à tout. Jean Bailly a été le premier maire de Paris lors de la Révolution française. Il s'intéresse très tôt à l'astronomie et il fait construire un observatoire sur le toit du Louvre à Paris. Et ses observations astronomiques lui valent son élection à l'Académie des sciences. Nous sommes en 1763. Voilà, Jean-Sylvain Bailly, décédé donc un 12 novembre 1793. On revient donc sur cette annonce faite par la NASA. C'était le 27 octobre précisément. On apprenait dans la journée que la NASA faisait un communiqué à 20h heure de Paris et on se demandait un petit peu ce qui allait être évoqué lors de cette annonce. On savait que ça concernait Mars et en fait on apprenait donc lors d'une conférence de presse que une météorite de 200 tonnes s'est écrasée sur Mars. Elle faisait à peu près la taille d'une camionnette, cette météorite. Et en fait, de façon un petit peu plus précise, il y a un sismomètre qui fait partie de cette mission InSight qui a détecté deux impacts majeurs sur Mars et il remonte au 24 décembre 2021, donc il y a à peu près un an. Le plus gros des deux impacts a causé un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur, ce qui est quand même pas anodin. Certains débris ont volé jusqu'à 37 km, c'est ce qu'explique l'agence spatiale américaine dans son communiqué. Alors, il s'agit non seulement de la première fois qu'un impact aussi important est observé sur Mars, mais surtout de telles collisions ne se sont pas produites depuis plusieurs siècles sur la Terre. Et donc c'était quand même assez intéressant d'analyser ce qui s'est passé sur Mars. Cette découverte majeure est basée sur des observations réalisées par donc le module d'atterrissage InSight qui est posé sur Mars et par la mission qu'on avait déjà évoquée, à savoir Mars Reconnaissance Orbiter. Il est sans précédent de trouver un nouvel impact de cette taille, c'est ce qu'a déclaré Ingrid Dobar. Elle fait partie du groupe de travail sur les sciences justement lié à cette mission InSight. C'est un moment passionnant, nous dit-elle, de l'histoire géologique et nous devons en être témoins. Et puis, en fait, c'est pas tout. On apprend qu'il y a des gros morceaux de glace qui ont été dispersés par l'impact et qui ont été observés, c'est ce qu'explique la NASA. La glace souterraine, on le sait, ça serait une ressource vitale pour les astronautes qui pourraient utiliser justement cette glace souterraine pour pas mal de choses et notamment bien sûr pour avoir une source d'eau potable pour l'agriculture sur place, pour les propulseurs de fusées également. Et France Info, qui avait notamment relayé cette information de la NASA, a contacté Olivier Sanguy, qui est spécialiste de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et Olivier Sanguy confirme vraiment l'intérêt de cette découverte. Il explique que de la glace d'eau soit dans le sol martien, cela veut dire qu'il y a eu de l'eau sur Mars et cela intéresse beaucoup la NASA pour de futures missions habitées. L'échéance est encore à déterminer, mais on sait qu'on est quand même maintenant sur une échéance assez courte. La glace d'eau est importante comme ressource parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout emmener lors de missions martiennes. Évidemment, si on va sur Mars, ça serait bien qu'on puisse avoir quand même l'essentiel sur place, parce que si on emmène tout depuis la Terre, ça va être très contraignant, très cher, très lourd, et puis à ressources limitées évidemment. Donc si on a des choses qui vont nous permettre de pouvoir exploiter ces ressources locales, ça pourrait être vraiment très utile. Donc voilà, une météorite de plusieurs centaines de tonnes s'est écrasée donc sur Mars. C'est ce qu'a annoncé la NASA le 27 octobre dernier. Mais c'est assez fascinant. Alors, vous avez peut-être vu ces images. On voit l'image du sol martien avec cette espèce de trou, un cratère, voilà, qui a été, qui est apparu suite à cet impact. Et donc, les images sont vraiment impressionnantes et assez fascinantes. Voilà, on va développer le reste de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite avec cette émission Biotine. Biotine qui est aussi une émission un peu musicale parce que ça fait du bien.
Je ne veux pas obéir au doigt et à l'œil à la voix d'un maître. Non, 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 je ne veux pas rentrer dans le moule. Je ne veux pas rentrer dans le rang. T'attends quoi? Je ne veux pas me fendre dans la masse.
Moi, je veux toucher la masse.
I touch the mass.
Je veux faire la pluie et le beau temps.
I touch the mass. Everybody hails me.
Eh bien oui, vous rentrez du boulot. Hein. C'était Claire Diterzi sur l'antenne de Graphite avec Je touche la masse. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On parle d'énergie, on parle de mobilité électrique. Et on le sait, l'inconvénient majeur de la voiture électrique, c'est évidemment le temps de charge de sa batterie. Et pour surmonter cette difficulté, les scientifiques et les ingénieurs travaillent d'arrache-pied depuis quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, il y a deux équipes qui présentent des avancées qui pourraient bien révolutionner quand même le secteur de la mobilité électrique. La première avancée pourrait venir d'une équipe qui travaille à développer une espèce de technique innovante de contrôle de la température pour les futures missions de la NASA. Il y a un module qui a commencé à être testé à bord de la Station Spatiale Internationale il y a quelques mois et il compte sur l'écoulement d'un espèce de liquide qui est refroidi bien en dessous de son point d'ébullition. Donc on est vraiment sur un liquide quand même assez froid et sur ces changements de phase pour essayer d'améliorer l'efficacité du transfert de chaleur. Alors là, je vous parle d'espace, je vous parle de liquide froid. Quel est le lien avec les batteries des voitures électriques ? Eh bien, c'est que le fait qu'en cours de charge, le passage du courant fait monter la température. D'autant plus que le courant est intense, que la charge est rapide. Ça impose des câbles qui sont particulièrement lourds, qui sont difficiles à manœuvrer. Et notamment pour des systèmes de recharge rapide, on doit donc pouvoir y intégrer une espèce de liquide de refroidissement et des conducteurs de grande taille qui vont pouvoir supporter justement l'augmentation de la température. Et donc, les ingénieurs de la NASA expliquent ainsi que pour espérer charger la batterie d'une voiture en 5 minutes seulement, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un remplissage avec de l'essence, pardon, eh bien, il faudrait des systèmes qui vont fournir un courant de 1400 ampères, quand même assez important. Et donc, du coup, bah, ça va générer beaucoup plus de chaleur encore que les systèmes actuels. Les systèmes actuels, ça ne dépasse pas 520. Là, on veut un système à 1400 ampères. Donc, effectivement, il va falloir gérer un petit peu cette problématique, notamment de chaleur. D'où l'utilité d'une technologie qui va permettre de contrôler la température. Et donc, les chercheurs ont testé celle qui était destinée aux missions de la NASA. Et ils ont élaboré un câble de charge qui était capable de fournir jusqu'à 2400 ampères. Et ils ont essayé, voilà, et donc c'est une piste assez intéressante qui a été évoquée. C'est également l'autre piste qui concerne toujours la régulation de la température et cette question, bien, c'est une autre équipe de chercheurs qui, cette fois, ont voulu aussi essayer de suivre cette piste avec l'idée de s'attaquer à la question de l'intérieur, parce que les systèmes classiques de chauffage et de refroidissement qui sont destinés à maintenir une température constante pour que la batterie puisse fonctionner de façon optimale, eh bien, tous ces systèmes qui existent sont des systèmes externes et des systèmes assez encombrants. Et ça va gaspiller beaucoup d'énergie, ça réagit un peu lentement, c'est pas vraiment génial en clair. Et donc les chercheurs de l'université de Penn State aux États-Unis, ils ont travaillé sur une nouvelle structure de batterie. C'est une structure qui va intégrer une feuille de nickel très fine, très mince, ultra mince, nous dit-on. Et c'est elle, justement, cette feuille de nickel, qui va pouvoir réguler, auto-réguler la température et va donc pouvoir améliorer la réactivité de la batterie. Alors, non seulement cette nouvelle batterie pourrait être chargée à 70% en 11 minutes seulement, nous dit-on, mais selon les chercheurs, eh bien, le procédé permettrait aussi de réduire la taille des batteries des voitures électriques sans avoir à craindre une perte d'autonomie. Donc si on peut réduire la taille des batteries, les recharger beaucoup plus rapidement, c'est quand même assez intéressant et ça donne des perspectives vraiment innovantes et qui vont motiver peut-être un petit peu plus les personnes à acheter des voitures électriques parce que l'engouement pour l'instant il reste quand même assez limité et ça permettrait aussi de pouvoir limiter l'utilisation de matières premières assez critiques, ça permet aussi de baisser les coûts, bref, ce sont des pistes vraiment assez intéressantes qui vont permettre de motiver un petit peu les partenaires industriels pour essayer de fabriquer et de commercialiser de façon façon assez rapide ces nouvelles batteries. Voilà, donc du coup, on est sur deux pistes vraiment intéressantes qui nous permettraient de recharger une voiture électrique aussi vite que quand on fait un plein d'essence. Ça serait possible, en restant quand même toujours pour l'instant sur le conditionnel, mais en tout cas, on est sur deux pistes assez intéressantes qui vont justement nous permettre de pouvoir avoir un certain engouement sur cette question et même plutôt être rassuré, je pense, parce que la difficulté pour l'utilisation des voitures électriques, c'est que, voilà, où est-ce qu'on les charge, combien de temps on les charge, est-ce qu'on aura la possibilité de les charger quand on est sur des trajets assez longs. Enfin bref, il y a beaucoup de questions pratiques qui n'ont pas nécessairement des réponses vraiment optimales aujourd'hui, et on voit très très bien depuis quelques temps maintenant que les recherches avancent dans ce domaine-là, bien sûr. On retourne dans l'espace cette fois avec cette annonce de Joseph Hachbacher, qui est le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Il a annoncé un nouveau report du premier vol d'Ariane 6. Alors, pardon, excusez-moi, il est aujourd'hui en fait prévu ce nouveau vol vers la fin de l'année. Eh bien, les plus pessimistes diront qu'il ne pourrait n'avoir lieu que début 2024. En tout cas, il faut faire avec. On est encore sur un report. Et ce report, en fait, objectivement, il ne surprend pas vraiment parce que on n'a pas nécessairement de détails, c'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne d'un côté, Ariane Group de l'autre, n'ont pas souhaité entrer dans les détails sur ce qui a exactement pu causer encore ce glissement à la fin de l'année, voire même à la fin de l'année 2023 ou même début 2024. Eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, Daniel Neuenschwander, qui est le directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, il nous avait un petit peu préparé à cette annonce, hein, parce qu'il avait expliqué les difficultés rencontrées dans le développement d'Ariane 6 et la préparation de son premier vol. On en avait parlé notamment dans cette émission il y a quelques semaines. Et ce nouveau report qui va être additionné à l'arrêt de la coopération spatiale entre l'Europe et la Russie, ce qui nous prive de l'utilisation de Soyouz, la fin de l'aventure d'Ariane 5, bref, tout ça met à mal l'autonomie de l'Europe en matière d'accès à l'espace. Alors d'ici avril 2023, l'Europe n'aura plus de lanceurs en service capables d'atteindre l'orbite géostationnaire. On est à 36 000 km de la Terre quand même, et ça, on n'aura plus nécessairement les moyens techniques de pouvoir le faire, parce que les trois dernières Ariane 5, elles vont être lancées à partir de mi-décembre 2022 jusqu'à avril 2023. Ça va être assez compliqué. Pendant cette période qui devrait durer au moins 6 mois, eh bien, l'Europe devra compter sur les lanceurs de SpaceX, voire ceux d'un autre organisme qui est l'ISRO également. Or, l'année prochaine, Ariane 6 devait lancer un télescope qui s'appelle Euclide, qui permettait d'avoir une étude de la matière noire. Un autre télescope qui s'appelle Healthcare, qui avait pour objectif de mettre en place un bilan radiatif terrestre. Il y avait deux satellites Galileo, c'est le GPS européen. Et donc, Ariane Espace ne pourra pas les lancer au mieux avant 2024. Voire 2025, une situation qui contraint l'Agence spatiale européenne à envisager d'utiliser donc SpaceX et notamment un Falcon 9. Alors sur le plan commercial, avec 29 contrats signés, dont 18 avec Amazon pour déployer une partie de la constellation Kuiper, eh bien ce report ne semble pas affecter apparemment la commercialisation du lanceur, parce que 75% de ces contrats sont des missions commerciales, les 25% sont des missions institutionnelles. Alors, de façon un petit peu étonnante, il est très peu de question de la décision prise d'arrêter la production des lanceurs Ariane 5, alors que Ariane 6, ça n'existait que sur le papier. Donc il y a une transition qui n'a pas nécessairement été anticipée, on va dire. À l'époque, il était question d'une transition de seulement 3 ans. On voit que ça ne va pas être le cas, parce que maintenant, on est sur une transition qui va durer 5 ans, voire plus. La première Ariane 5 a été lancée en juin 1996. La dernière Ariane 4 en février 2003. Donc là, on était bien sur une période de transition, c'est-à-dire que les anciens modèles de fusées existaient encore et les nouveaux, enfin voilà, il y avait une vraie phase où on n'était pas bloqué. Là, c'est un petit peu compliqué parce que Ariane 5 c'est fini, Ariane 6 n'a pas démarré. Et voilà, et c'est pas sans conséquence dans le sens où, je vous l'ai dit là depuis un certain temps, la décennie qui arrive, enfin la décennie dans laquelle nous sommes, c'est vraiment une décennie de course à l'espace. Et on voit très bien qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont véritablement pris un bel essor dans ce domaine-là. Et du coup, l'Europe est un peu, voilà, est un peu freiné, on va dire, et ça sera une affaire à suivre, bien évidemment. Allez, on écoute Coup de Baron sur l'antenne de Graphite.
On s'inquiète, on s'approche et c'est pourtant banal. Les mémoires dans la poche, on oublie les étoiles. Dans sa tête, on s'accroche, on s'encastre bancal. C'est le même son de cloche, on adore ce qui est normal. Les mirages zambiers, on se rêve exotique. Militant pour la paix, on adore toute l'Afrique. Le tiers-monde au rabais, on connaît ses classiques. En un coup de balai, la conscience est logique. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. On se traite, on se blesse, mais c'est juste pour la frime. On surveille ses fesses, le cœur est en vitrine. On maquille les faiblesses, on n'en montre qu'un signe. Fusée de détresse, c'est pour les magazines. Le train de vie, c'est sacré, on tue des gens pour ça. On s'est bien enfermé à traiter notre épas. En attendant le temps, j'ai chanté, je m'enlace. Laisse souffler le vent, les trépassés, trépassent. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. On laisse passer les ans pour le goût du regret. Va perdre son temps, cherche à trop le gagner. On s'invente des drames quand le printemps nous quitte. Si le début se fane, on a peur de la suite. Si les enfants qui marchent ont déjà pris la pente. Si les âges nous tâchent, que les ans nous hantent. C'est qu'on met le regard sur les nombrils en trop. Alors à trop se voir, on s'aveugle bientôt. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants. Empoigne les centimètres, empoigne tous tes instants. Les bagnes ont bien des fenêtres, empoigne tous tes instants.
Empoigne, c'était Coup de Marron sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h et les mardis entre 10h et 11h pour la rediffusion. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et de cette annonce qui a été faite concernant les produits capillaires de défrisage qui sont suspectés d'augmenter le risque de cancer de l'utérus chez les femmes qui les utilisent. C'est en fait la conclusion d'une étude qui a été publiée dans le Journal of the National Cancer Institute. Cette étude a été menée auprès de 30 000 femmes américaines. La force de cette étude, c'est qu'elle réunit des femmes de différentes origines ethniques, afro-américaines, hispaniques, asiatiques et amérindiennes. Et ces 30 000 femmes ont été suivies pendant 10 ans. Et pendant cette période, 357 d'entre elles ont développé un cancer de l'utérus. Donc ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette étude, c'est qu'on est quand même sur un panel assez important, ce qui nous permet quand même d'avoir une vision un peu plus fine de la situation. Il s'avère donc que le risque de voir ce cancer de l'utérus apparaître est beaucoup plus élevé chez les femmes qui utilisent des produits capillaires pour défriser leurs cheveux. Dans l'étude, 60% de ces femmes sont d'origine afro-américaine et Alexandra Wright, qui est la directrice de cette étude, explique: « Nous avons estimé qu'à peu près 1,6% des femmes qui n'utilisent jamais de produits de défrisage vont développer un cancer de l'utérus avant 70 ans. Mais pour celles qui en utilisent souvent, le risque atteint les 4%. Donc on passe de 1,6 à 4% de risque, ce qui est quand même assez significatif. Avec ses collègues, Alexandra White explique, nous avons observé un risque ajusté 80% plus élevé de cancer de l'utérus chez les femmes ayant déjà utilisé un produit de défrisage au cours des 12 mois précédents. Alors si les femmes afro-américaines sont plus enclines à utiliser des produits de défrisage, eh bien le risque d'apparition du cancer de l'utérus n'est pas plus élevé chez elles que chez les femmes blanches ou d'origine latine par exemple. En revanche, elles risquent de souffrir de plus de problèmes de santé dus à cette pratique, souvent commencée à un jeune âge, selon les scientifiques. Alors une augmentation inquiétante pour un cancer qui reste rarement diagnostiqué, mais dont l'incidence et la mortalité associées sont en hausse depuis 20 ans. Plus de recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats dans différentes populations, pour déterminer si les produits capillaires contribuent à des disparités de santé dans le cancer de l'utérus et pour identifier les molécules spécifiques qui pourraient augmenter ce risque de cancer chez les femmes. C'est ce qu'explique donc Alexandra White. Mais donc voilà, le défrisage chimique des cheveux augmenterait le risque de cancer de l'utérus. C'est une étude, je crois que c'est la première fois qu'on évoquait ce sujet dans cette antenne depuis maintenant que l'émission existe depuis plus de 10 ans. Je crois que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là des produits de défrisage chimique des cheveux avec donc cette incidence apparemment directe avec l'apparition des cancers de l'utérus. Voilà. Je vous ai bien plombé l'ambiance, je suis désolé. Mais bon, enfin, j'ai un peu l'impression qu'en fait, cette étude qui n'a pas été nécessairement bien diffusée dans les médias, j'ai un peu l'impression. Donc voilà, c'était bien de faire une petite alerte aujourd'hui. Autre thématique, on parle beaucoup d'espace, bien sûr, on parle aussi pas mal d'énergie également. C'est quand même l'un des défis qu'il va falloir relever, et notamment pour certains, l'hydrogène qui apparaît comme l'énergie entre guillemets de demain. Et ce potentiel de l'hydrogène est assez grand lorsque l'on parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à condition toutefois que l'hydrogène en question soit produit à l'aide d'une électricité bas carbone, bien évidemment, parce que ça n'a aucun intérêt de produire de l'hydrogène si on utilise des technologies qui vont être très consommatrices d'une autre énergie ou qui vont être également très émettrices de gaz à effet de serre. Alors il faut essayer de trouver des solutions, c'est pas évident, mais l'ambition affichée par l'Europe est bien de réussir à produire d'ici la fin de cette décennie, donc d'ici 2030, produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an. Alors il y a quelques jours, c'était courant octobre, il y a un pas de plus qui a été fait en ce sens par l'un des acteurs français du marché qui s'appelle Lhyfe, qui produit déjà 300 kilos par jour d'hydrogène vert à partir d'énergie éolienne en Vendée. La société l'a inauguré donc il n'y a pas très longtemps du côté de Saint-Nazaire, cette fois en Loire-Atlantique, et bien le tout premier démonstrateur de production d'hydrogène renouvelable offshore. C'est le tout premier du monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à cela ? Eh bien, c'est que les défis à relever pour produire de l'hydrogène en mer sont nombreux. Il y a d'abord les étapes qui peuvent être communes à tous les projets de production d'hydrogène, c'est-à-dire la connexion à une source renouvelable. Là, on est dans le cas d'une éolienne. Le pompage de l'eau de mer, le fait d'enlever le sel, la désalinisation de cette eau de mer. Et puis enfin, aboutir à son électrolyse pour en tirer de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est la molécule d'eau qu'on écrit H2O, H pour hydrogène, O pour oxygène. Ça veut dire qu'en clair, on veut récupérer, je vais y arriver, l'hydrogène qui est présent dans les molécules d'eau. Donc on va procéder à une électrolyse qui va nous permettre de récupérer cet hydrogène. Mais ce n'est pas si simple, bien évidemment, à mettre en place. Et cette fois, les difficultés sont liées à un fonctionnement automatique sur une plateforme flottante reliée à une éolienne qui est elle-même flottante. On aime bien se compliquer la vie, mais en tout cas, on essaye de voir si ça marche. La société Lhyfe compte d'abord tester son système à quai pendant 6 mois. Avant de l'installer pendant 12 mois à 1 km environ d'une éolienne flottante, on est au large du Croisic, toujours en Loire-Atlantique, et le tout pour tester l'impact du mouvement de la plateforme sur les équipements et éprouver la manière dont justement ce dispositif peut faire face aux agressions de l'environnement. La corrosion, les chocs, les variations de température, tout ça bien sûr peut aboutir à un vieillissement prématuré des pièces qui le composent. Et puis fonctionner également en milieu isolé, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un sur place. Non, l'idée, c'est justement que ça puisse être autonome et isolé. L'objectif, en fait, de cette entreprise, c'est de produire 400 kg d'hydrogène par jour à un prix qui devra concurrencer celui de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures et des énergies fossiles. Donc là, on est sur une piste vraiment intéressante, assez prometteuse, qui concerne donc de la production d'hydrogène vert, entre guillemets, produit en mer. Et c'est donc une première mondiale. Et ça se passe, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'ils en pensent, Veland Skills, sur l'antenne de Graphite ? Veland Skills avec Happy Campers sur l'antenne antenne de Graphite. On va parler robot avec deux annonces. La première concerne la médecine avec les médicaments. Il y a de nombreux médicaments qui ne peuvent pas être pris de manière orale à cause de la barrière muqueuse intestinale et c'est la raison pour laquelle il y a certains traitements comme la sunil, hein, par exemple, qui doivent être administrés par injection. Eh bien, il y a de nombreuses pistes qui sont étudiées pour essayer de contourner cette barrière. Il y a notamment des chercheurs du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. C'est aux États-Unis. Eh bien, des chercheurs ont trouvé une méthode assez originale en utilisant une espèce de capsule robotique et ils ont publié leur étude dans la revue Science Robotics. Alors, cette capsule, elle s'appelle RoboCap. Elle creuse un tunnel à travers la barrière de la muqueuse afin de déposer le médicament directement sur l'épithélium. La capsule, elle mesure environ 2,5 cm de longueur pour un peu moins d'un centimètre de diamètre. Elle est protégée par une couche de gélatine qui va se désagréger au contact du pH de l'intestin grêle. Et donc, la capsule, elle contient un petit moteur qui est alimenté par une pile oxyde d'argent ainsi qu'un espèce de compartiment. Et c'est dans ce compartiment qu'on va pouvoir mettre le médicament. Et donc, lorsque la gélatine, elle va être dissoute, eh bien, elle expose une membrane qui bloque le circuit entre la pile et le moteur. Et cette membrane, elle est elle aussi dissoute. La capsule se met à vibrer. Et du coup, eh bien, ça se met à vibrer, ce qui permet à cette espèce de capsule RoboCap de creuser un tunnel dans la muqueuse. Ça fait bizarre, rien qu'à le lire. J'essaye de voir les images, c'est assez étonnant. Bref, les chercheurs, ils ont testé cette capsule sur des cochons avec de l'insuline et un autre antibiotique qui s'appelle la vancomycine. Les résultats indiquent que la dose effectivement absorbée, elle était 20 à 40 fois plus élevée qu'avec une simple gélule. Et selon les chercheurs, eh bien, il serait également possible d'administrer des médicaments directement au niveau de l'estomac ou du côlon en changeant la formule de la gélatine pour que, en fait, elle puisse se dissoudre selon des pH différents. C'est-à-dire que cette gélatine, elle sert un petit peu de protection de cette espèce de gélule robotique. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir dissoudre cette gélatine au bon endroit. Donc on va essayer de concevoir une gélatine qui puisse se dissoudre selon le pH de l'endroit où elle doit se déposer. Donc ça, à la rigueur, c'est possible, c'est pas le plus compliqué. Selon les chercheurs, il sera également possible de voir si ce mode d'administration serait viable sur le long terme, notamment par le fait que le diabète de type 1 nécessite plusieurs doses d'insuline par jour à vie et que du coup, c'est peut-être un petit peu contraignant d'avoir cette espèce de robot qui est à l'intérieur du corps. Et notamment dans cet article, on ne parle pas de ce qui se passe après. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments que le corps ne peut pas absorber. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste assez intéressante qui permettrait à ce robot de pouvoir remplacer les injections pour les soins. Autre chose concernant les robots, on se pose la question de savoir si les robots sont capables de partir dans un fou rire incontrôlable et contagieux. Est-ce qu'ils peuvent ricaner à bon escient? Est-ce qu'ils peuvent contenir un rire ou un fou rire qui peut paraître impoli? En fait, ce qui a l'air naturel pour les humains, c'est loin d'être acquis pour les robots, malgré bien sûr des intelligences artificielles de plus en plus puissantes. L'humour reste une question de nuance et c'est justement en raison de ces nuances qu'il est compliqué pour un robot de l'utiliser. C'est pourquoi des scientifiques de l'université de Kyoto ont entrepris de développer par le rire, eh bien, la notion d'empathie à leur intelligence artificielle. Leur support d'étude, c'est un robot qui s'appelle Erika. Et pour renforcer l'empathie de l'intelligence artificielle, les chercheurs ont estimé que la meilleure façon de procéder pour sympathiser avec les utilisateurs était de partager leur rire. Et pour apprendre à rire quand il le faut et à doser ce rire, eh bien Erika s'est donc lancée dans une série de 80 speed dating avec des hommes. Les interventions du robot étaient alors, on va dire, téléopérées par des opératrices, c'est-à-dire que, pardon, derrière, on essayait quand même un petit peu de contrôler et d'éduquer, on va dire, cette intelligence artificielle à la notion d'humour. Les fichiers audio de ces dialogues qui amenaient des séquences de rire ont été analysés par l'algorithme d'apprentissage automatique et toutes les nuances ont été abordées, qu'il s'agisse du rire un peu embarrassé ou du rire poli, qui n'a rien à voir avec de l'humour, bien sûr, ou encore des séquences de rire en solo. Ces travaux ont permis à l'intelligence artificielle de savoir quand il fallait rire et de quoi il était possible de rire. Alors, pour vérifier la fiabilité de leur algorithme, l'équipe a également testé le sens de l'humour d'Erika à partir de 4 courts dialogues. Le robot pouvait par exemple émettre ce qu'on appelle un peu un rire social lorsqu'il identifiait un départ de rire de l'interlocuteur. Et avec ces travaux, les chercheurs comptent ajouter cette corde du rire aux différents comportements des robots pour rendre les discussions plus naturel. En revanche, il ne faut pas imaginer qu'un robot pourrait devenir sensible et vraiment empathique. Dans le meilleur des cas, ces algorithmes seront simplement suffisants pour vous faire croire qu'il vous comprend. Mais voilà, on apprend au robot à rire de nos blagues. C'est assez intéressant. Alors, je n'ai pas vérifié s'il y avait des vidéos qui montraient un petit peu cela, mais c'est fort possible. Après tout, ça peut être fort possible de voir ça. Et bien voilà, maintenant l'intelligence artificielle, elle va rire de nos blagues. On ne s'en sortira donc jamais.
Solid background as a chief has given me the strong belief that I really am.
The Beyonders avec Curriculum sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite 94.9 et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir suivre toutes les émissions de Graphite en écoutant ou réécoutant les podcasts sur le site graphite.net et la page Facebook qui vous permet aussi de vous tenir informé de l'actualité de Graphite avec apparemment, je suis en train de regarder ça sur le tableau qui est à côté de moi, un ciné-concert organisé à Tourotte à l'espace culturel le jeudi 24 novembre prochain à 20h30. Vous suivrez l'actualité de cet événement, partenariat Graphite bien sûr, sur la page Facebook de votre radio curieuse. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Je sais pas, j'ai peut-être faim, c'est peut-être... Bon appétit hein, si vous êtes à table. Là, il est samedi, il est à peu près quoi, 12h48. C'est très cruel pour moi, d'autant que je vais encore vous plomber l'ambiance. Parce que je crois qu'en fait, toutes les semaines, on a toujours un article qui nous parle un petit peu du dérèglement climatique et des conséquences assez néfastes. Et donc là, il y a deux articles qui sont encore très alarmistes. Premier article concerne l'augmentation de la consommation d'énergie fossile à un niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère jamais enregistré auparavant. La multiplication des épisodes de chaleur extrême, des feux de forêt et puis plein d'autres catastrophes naturelles. Et bien une fois de plus aujourd'hui, il y a une équipe internationale de chercheurs qui le souligne. L'humanité est sans équivoque confrontée à une urgence climatique. Les scientifiques précisent que 16 des 35 signes vitaux planétaires qu'ils utilisent pour suivre le changement climatique anthropique ont atteint des records. Alors en janvier 2000, déjà, il y a des chercheurs qui avaient alerté sur la situation. Ils soulignaient alors l'obligation morale qui était la leur d'avertir clairement l'humanité de toute menace et de dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, à ce jour, il y a plus de 14 000 scientifiques qui se sont ralliés à ce collectif. Le rapport qui s'appelle World Scientists Warning of a Climate Emergency 2022, qui vient tout juste donc de paraître à ce rapport 2022, rappelle aussi que le changement climatique n'est pas un problème isolé. Il fait partie d'un problème systémique plus large, de dépassement écologique, où la demande humaine dépasse la capacité de régénération de la biosphère. Et donc, pour éviter d'autres souffrances humaines indicibles, nous devons protéger la nature, éliminer la plupart des émissions de combustibles fossiles et soutenir des adaptations climatiques socialement justes en mettant l'accent sur les zones à faible revenu qui sont les plus vulnérables. Alors, c'est bien joli, c'est ce qui est marqué dans le communiqué. Comment ? Eh bien, nous dit-on, en adoptant d'urgence des approches fondées sur la science et la recherche et en encourageant les chercheurs à sortir de derrière les données et à prendre position. Donc voilà, le pronostic vital de la Terre est désormais engagé. C'est ce que lance un collectif de 14 000 scientifiques, ce qui a donc évidemment une importance assez primordiale, bien sûr. Et puis donc, toujours dans ce contexte-là, les derniers engagements climatiques internationaux en date, eh bien tout ça c'est très loin de répondre à l'objectif de l'accord de Paris. On se rappelle que cet accord c'était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et c'est, eh bien, du coup on en est très loin, c'est ce qui a été annoncé par l'agence de l'ONU pour le climat fin octobre. Je cite Simon Steele qui est le patron justement de l'agence de l'ONU pour le climat. Nous sommes très loin du niveau et de la rapidité de réduction d'émissions nécessaires pour nous mettre sur la voie d'un monde à plus 1,5 degré. Cela s'est fait à l'occasion de la publication d'une synthèse des derniers engagements des pays signataires de l'accord de Paris. Et puis, c'est l'ouverture aussi, bien sûr, de la conférence mondiale climatique, la COP27. Alors, au contraire, la somme des engagements des 193 parties à l'accord pourrait mettre le monde sur la voie d'un réchauffement de 2,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. L'accord de Paris, qui date de 2015, il y a déjà 7 ans, fixe l'objectif de contenir le réchauffement de la planète nettement en dessous de plus 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire quand l'humanité a commencé à exploiter à grande échelle les énergies fossiles responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et lors de la dernière COP26, c'était en 2021, l'année dernière à Glasgow, les signataires de l'accord s'étaient engagés à réviser annuellement, parce qu'au départ c'était tous les 5 ans, là c'est tous les ans, réviser leurs engagements en matière de lutte contre les émissions. Mais seuls 24 pays avait soumis ses, comment dire, ses contributions au niveau national, c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut le faire, mais ils ne le font pas, si bien que se tient actuellement la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, et donc du coup, il y a un moment, cette prise de conscience, elle existe, maintenant il va falloir agir, mais c'est ce que je vous dis depuis un certain temps, toutes les semaines dans cette émission, on a des articles sérieux qui nous confirme ce que l'on sait déjà depuis un bon bout de temps. Maintenant, je pense qu'on a bien compris. Maintenant, il faut agir. Et en fait, c'est très, très décevant pour l'instant. Et, car, du coup, il ne reste que 7 ans pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone et avoir un futur encore vivable. Il ne reste que 7 ans, sinon c'est trop tard. 7 ans, c'est rien. Et quand on voit que les accords de Paris datent de 2015, donc il y a déjà 7 ans, on voit que finalement, c'est très, très difficile, très long, en fait, de mettre en place des solutions totalement objectives et efficaces. À voir donc, mais en tout cas, c'est assez pessimiste, j'en suis désolé. Allez, on écoute un dernier titre pour nous mettre du baume au cœur, et puis ça sera la fin déjà de cette émission. C'était Zero avec The Cage sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en bonne compagnie, c'est-à-dire avec la suite des émissions de Graphite sur le 94.9 ou graphite.net. Bonne semaine. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une autre émission de Graphite. Au revoir.